السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، nous sommes toujours à la bataille de Uhud dans la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Les dernières fois, après s'être intéressé à l'événement tragique où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été gravement blessé, on a parlé de la réaction des compagnons face à ses blessures. Et on a parlé aussi par la suite des compagnons, des valeureux compagnons qui ont défendu, pour certains même de leur vie, la personne et l'intégrité physique du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On a cité des compagnons dont on ne connaît même pas le nom, en particulier les compagnons parmi les Ansar de Médine. Et ensuite, on a donné des exemples aussi de compagnons, même si ils sont restés vivants par la suite, qui ont risqué leur vie pour protéger le prophète sallallahu alayhi wa sallam à ce moment-là et à cet endroit-là. On a cité Talha ibn Ubaydillah radiyallahu anhu. Il était tellement à la hauteur que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude de dire après ce moment-là: Man sarrahu an yanzura ila shahidin yamshi ala al-ard falyanzur ila Talha. Celui qui est désireux de voir quelqu'un, ou plutôt un martyr qui marche sur terre, qui est vivant alors qu'il est déjà martyr, il a déjà obtenu le degré de martyr alors qu'il est toujours vivant, qu'il regarde Talha ibn Ubaydillah. Ensuite, on a cité Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu. Sa'd ibn Abi Waqqas, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, au moment de Uhud, puisque c'était un très bon archer, le professeur Hassan disait: Irmi ya Sa'du, fidaka abi wa ummi. Lance tes flèches, Sa'd, pour toi, pour qui je suis prêt à sacrifier père et mère. Fidaka abi wa ummi. On avait expliqué que c'était une expression en arabe, etc. Et que le professeur Hassan le disait très rarement à ses compagnons. Qu'il pouvait dire de temps en temps à certains compagnons, et pas n'importe lesquels: Fidaka abi. Toi pour qui je suis prêt à sacrifier mon père, pour lui montrer de l'importance qu'il avait ce compagnon. Quand il voulait monter encore plus haut, il disait Fidaka ummi, toi pour qui je suis prêt à sacrifier ma mère. Et quand c'était au-dessus encore, c'était Fidaka abi wa ummi, toi pour qui je suis prêt à sacrifier père et mère. Et un des rares compagnons qui ont pu avoir et entendre ça du professeur Asselum, c'est le compagnon Sa'd ibn Abi Waqqas à ce moment-là, au moment où il est venu, hein, la traversée des rangs d'idolâtres pour venir défendre le professeur sallam au risque et au péril de sa vie. On a cité également Abu Dujana radiyallahu anhu, qui lui protégeait le professeur sallam de son corps et donnait son dos pour recevoir les flèches. Et ensuite on a cité Abu Talha al-Ansari radiyallahu anhu, qui lui protégeait également de son corps le professeur sallam. Et lorsque le professeur sallam levait la tête pour regarder ce qui se passait, il lui disait « La tushrif yusibka al-qawmu yusibka sahmun min siham al-qawm » Ne te relève pas, ne lève pas la tête. Sinon, tu risques d'être atteint par une des flèches. Ça veut dire qu'à ce moment-là, quand il le protège et que lui se montre, ce compagnon, ça veut dire qu'il y a des flèches qui viennent de partout, comme on l'a expliqué, il ne veut pas que les flèches. Parce que le professeur Sam a été blessé par des coups d'épée, il a également été blessé par des coups de pierre, puisque ceux qui n'avaient plus rien acheté, qui savaient que le professeur Sam était là, étaient tombés dans le trou qui avait été creusé par Abu Amr al-Fassir, comme on l'a dit précédemment. Leur seul objectif, c'était de s'assurer qu'ils arriveraient à tuer le prophète Mohammed. Et ce compagnon Abu Talha al-Ansari, il donne son torse aux flèches. Et il dit au prophète, ne lève pas la tête, tu risques d'être atteint par une des cibles, par une des flèches. Et il va même jusqu'à ajouter, Nahri duna nahrika ya Rasulallah. Ma poitrine avant ta poitrine, au messager d'Allah. C'est moi avant toi. Laisse mon corps recevoir les flèches avant toi. Non. Ça nous montre l'amour que ces gens-là avaient pour le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Cet amour que nous cherchons à obtenir et à avoir à travers, notamment, l'étude de sa vie. Ala kulli hal, ensuite, on a cité des exemples de compagnons, comment ils ont été braves pendant ces moments extrêmement difficiles pour l'armée musulmane, puisqu'on a dit qu'on est dans le moment où la tendance, elle, s'est totalement renversée. Alors qu'au début, les musulmans commençaient à gagner la bataille, là, ils sont en train de totalement perdre, et à un tel point que toute l'armée est dispersée, que le professeur se met en danger, il est gravement blessé, qu'on cherche à l'éliminer physiquement. Et pendant ce moment-là, il y a des compagnons qui luttent jusqu'au bout et qui défendent jusqu'au bout leur cause. On a cité Qatada ibn Nu'man. Même si on a mis un doute sur l'authenticité du texte, on a dit que ce qui est rapporté dans les livres qui parlent de la biographie du professeur Sam, c'est que Qatada ibn Nu'man, il a été touché à l'œil à un tel point que l'œil serait sorti de l'orbite et que le professeur Sam l'a remis avec sa main et qu'on disait depuis que c'était l'œil avec lequel il voyait le mieux depuis ce moment-là, depuis que le professeur Sam l'a touché avec sa main bénie et qu'il l'a remis. Que c'était l'œil avec lequel il voyait le mieux. Non. On a cité Abdurrahman ibn Auf, qui a été blessé de plus de 20 blessures, et qui est, dont deux, elles ont eu des conséquences par la suite, puisqu'il a perdu une incisive centrale, et que il a été blessé également au pied et qu'il boitait depuis ce jour-là. Depuis la bataille de Uhud, il boite, Abdurrahman ibn Auf, à cause de cette blessure qu'il a reçue à ce moment-là. On a cité également Sahl ibn Hunayf, tout comme on a cité Al-Harith ibn Simma. Al-Harith ibn Simma, il y avait un cavalier parmi la cavalerie idolâtre qui a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui a dit « Muhammad, la najawtu in naja. » Quand il a reconnu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit « Muhammad, c'est lui ou c'est moi ?» La najawtu in naja, si on le traduit littéralement, ça veut dire « Je ne serai pas sauvé s'il est sauvé. » C'est-à-dire, si lui reste vivant, alors c'est moi qui dois mourir. C'est un de nous deux. Et donc, il vient en disant ça, ce cavalier. Et Al-Harith ibn Simma va défendre le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il va réussir à blesser et à faire tomber ce cavalier qui vient pour tuer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et pendant qu'il arrive à le faire tomber, un autre cavalier prend sa défense en blessant Al-Harith ibn Simma. Et à son tour, il y a le compagnon Abu Dujana qui est venu le défendre. On avait parlé de ça en détail. Ensuite, on peut citer également, on a cité également Ali ibn Abi Talib, radiallahu anhu. Et les exemples dans lesquels Ali ibn Abi Talib, radiallahu anhu, s'est surpassé dans cette bataille et dans bien d'autres, sont innombrables. Et ensuite, on a cité, après Ali ibn Abi Talib, radiallahu anhu, Abdullah ibn Jahsh. Abdullah ibn Jahsh, il a dit au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a dit avant de faire preuve de toute cette bravoure, il va dire, il va faire une invocation. Il va dire, oh Allah, ya Allah, fasse en sorte que je combatte avec courage. Et que je sois tué et qu'ensuite les idolâtres prennent mon corps et qu'ils le mutilent. C'est ce qu'il va demander. Et ensuite il va dire dans sa dua, et fais en sorte que donc je meurs dans cette situation et qu'ensuite tu me ressuscites, ya Allah, au jour du jugement dernier. Et que tu me poses la question, pourquoi tout ça? Pourquoi tu as subi tout ça? Et que je réponde, je l'ai subi pour toi, ya Allah. Et la narration, le hadith dit, et c'est ce qui lui est arrivé. Il a eu ce qu'il a demandé. Alors, le texte ici, on m'avait expliqué qu'au niveau de l'authenticité aussi, il y avait des discussions. Ça ne veut pas dire que c'est ce qu'on doit réclamer. Est-ce ce qu'on doit chercher? Mais il faut savoir que les idolâtres avaient déjà l'habitude de mutiler les corps de leurs ennemis. Et c'est d'ailleurs ce qui va se passer à Uhud, pas simplement pour le compagnon Abdullah ibn Jahsh, mais pour bien d'autres compagnons. Et un des corps qui va être le plus mutilé, c'est celui de Hamza ibn Abdel Muttalib, comme on le verra en détail plus tard. On sait que le corps aussi de Abdullah ibn Haram a été mutilé à un tel point que lorsque sa sœur, son fils Jabir ibn Abdillah sont venus pour récupérer le corps de son père Abdullah ibn Haram, il était recouvert d'un drap et qu'il a essayé de tirer le drap pour voir son père, que les compagnons l'empêchaient de tirer le drap parce qu'il a été mutilé. On leur a coupé aux compagnons, radiallahu anhum, qui sont morts à Uhud, comme on le verra plus tard, ils vont leur couper les oreilles, le nez et plus. On le verra en détail. Donc, il faut comprendre cette dua dans le sens où ce n'est pas ce qu'il veut, ce qu'il réclame, mais il sait que c'est une habitude des idolâtres. C'est-à-dire que s'il lui arrive de mourir dans cette bataille, il a le risque qu'il va lui arriver ce qu'ils ont l'habitude de faire, c'est-à-dire de mutiler les corps. Et lui, en fait, ce qu'il veut, c'est surtout qu'il puisse répondre à Allah Azzawajal, qu'il a subi tout ça, et qu'il a lutté jusqu'au bout pour une cause juste. Pour qui? Pour Allah Azzawajal, et uniquement pour Allah Azzawajal. Pour obtenir la satisfaction et l'agrément d'Allah Azzawajal. Ensuite, on a cité également un compagnon dont on n'a pas le nom. Puisque, comme on a dit, il y a beaucoup de compagnons dont on ne connaît même pas le nom, qui ont été jusqu'au plus grand des sacrifices. Et comme on avait déjà expliqué, dans toute guerre, il y a ce qu'on appelle le soldat inconnu. À un tel point qu'aujourd'hui, on en fait même des cérémonies et des tombes. On appelle ça la tombe du soldat inconnu, c'est-à-dire parmi tous les soldats qui sont tombés, on ne les reconnaît pas, on ne sait pas qui ils sont, etc. Hein, on en prend au moins un au minimum, on lui fait une tombe. Il y en a une sous l'Arc de Triomphe à Paris, pour la Première Guerre mondiale. Et tous les soirs à l'Arc de Triomphe, et on allume la flamme de la tombe du soldat inconnu. Pourquoi? Ça a commencé ici en France, le premier soldat inconnu. En vérité, le tout premier, c'est en Angleterre, la Harika. Même si l'idée elle est venue d'abord de France, et ensuite l'Angleterre, ils les ont devancés parce qu'il y avait une divergence. On ne va pas rentrer dans les détails, mais dans l'Assemblée nationale sur comment on va faire pour ce soldat inconnu. Donc l'Angleterre, ils l'ont fait, et ensuite la France l'a fait. Et aujourd'hui, énormément de pays du monde ont cette tradition du soldat inconnu. Pourquoi ? C'est ce qui nous intéresse. Parce que souvent, l'histoire se rappelle des noms les plus importants. Et souvent, l'histoire se rappelle du chef, c'est-à-dire celui qui était derrière, dans le luxe et le confort, qui donnait les ordres de loin, et on se rappelle de lui et on dit que c'est lui qui a gagné. Ils sont rares, les chefs dans l'histoire des guerres, qui étaient devant. Dans l'histoire de France, on a Napoléon, ça. Napoléon était connu pour être devant quand ça allait mal. Quand ça allait bien, il laissait l'armée. Quand ça allait mal, il allait devant. Et des histoires sur Napoléon, ou même par exemple dans une bataille, je ne sais plus laquelle, hein, ils n'arrivaient pas à prendre un pont. À chaque fois qu'il envoyait l'armée, il y en avait énormément qui mouraient, et il fallait ce pont, il était stratégique. Et donc Napoléon, il a fait un discours devant son armée, et il leur a dit, moi en ce qui me concerne, je vais prendre ce pont. Vous, je ne sais pas ce qui vous arrive aujourd'hui, mais moi je vais prendre ce pont. Et il est parti tout seul en courant vers le pont. Alors qu'en face, il y a l'armée qui était déjà en train de... Dès qu'il y avait l'armée tout entière qui allait, elle décimait tout le monde. Et là, il y va tout seul. Donc l'armée, qu'est-ce qu'elle a fait? Quand ils l'ont vu partir tout seul en courant, ils ont tous couru pour le protéger et en même temps pour aussi essayer de prendre le pont comme lui. Et c'est comme ça qu'ils ont pris le pont. Parce qu'il est parti, il a montré. Et le professeur, comme on le raconte dans la bataille de Uhud, il faisait partie... Non pas de ces gens-là, mais ils faisaient partie des meilleurs de ces gens-là. Ceux qui montrent l'exemple, ceux qui sont devant, ceux qui risquent leur vie. Et à la kulli hal, dans toute guerre, il y a des gens qui ont sacrifié leur vie pour leur cause. Et dans une guerre, il y a souvent des causes, quelquefois qui peuvent être justes, d'autres injustes. Mais il faut se dire que pour les causes justes, donc il y a des gens qui meurent dont on ne connaît même pas le nom. Et on ne peut même pas donner une sépulture à leur famille, etc. La personne de votre famille qui est décédée dans telle guerre, c'est, et voilà où est-ce qu'il est enterré, voilà ce qui lui est arrivé. On ne sait pas. Il y a eu plein de morts, donc c'est tout, c'est fini. Donc c'est pour ça qu'on, entre guillemets, il y a des traditions contemporaines qui honorent ce qu'on appelle le soldat inconnu, justement, pour donner tout le respect qui doit être donné à ces gens-là. Et donc, nous, on a cité des compagnons dont on n'a même pas le nom, mais on sait qu'ils ont existé, comme par exemple le compagnon qui a demandé au professeur Asseldem à la bataille de Uhud, si je meurs pour notre cause, où serai-je? Sous-entendu, après ma mort. Le professeur Asseldem lui a répondu, fil Jannah, au paradis. Et il a dit en s'étonnant, fil Jannah. Et il avait quelques dattes à la main qu'il avait pris avec lui en guise de provision. Il les a jetées, les a balancées, et il est parti s'engouffrer dans les rangs idolâtres jusqu'à ce qu'il fût tué. Non. À la kulli hal, on a également cité Mukhayriq. Mukhayriq n'était pas un compagnon musulman. Il n'était pas un compagnon. C'était un érudit rabbin juif qui, même si, comme on l'a expliqué, les textes qui parlent de Mukhayriq ne sont pas authentifiés, mais en tout cas, ils nous disent, ces textes, que Mukhayriq s'est joint aux musulmans pour la bataille de Uhud, puisqu'il y avait des pactes de vie ensemble, de vie en harmonie, à Al-Madinah, qui ont été mis en place par le professeur Sallam lorsqu'il est arrivé à Médine, comme on l'avait déjà vu en détail. Mukhayriq considérait que c'était son devoir de venir défendre les musulmans qui étaient attaqués. Et il a même été voir sa tribu pour leur dire, puisque la bataille de Uhud a eu lieu un samedi, il leur a dit, qu'est-ce que vous faites chez vous? C'est la guerre. Et nous avons le devoir de secourir les musulmans. Et on va lui répondre, c'est samedi, c'est Shabbat. Samedi, on ne doit rien faire, ni travailler, ni rien faire, etc. Et il va répondre, la sabtalakoum. Il n'y a pas de samedi aujourd'hui. Il y a des clauses, des exceptions dans la religion juive pour certaines personnes ou pour certains moments ou quand la situation est gravissime. Évidemment, il y a les règles du Shabbat, on n'est plus obligé de les suivre à la lettre. Et donc lui, qui est un érudit, qui est rabbin, il leur dit « La sabtalakoum », il n'y a pas de samedi là dans cette situation. Et en tous les cas, lui, il va y aller, et il va même aller jusqu'au bout, c'est-à-dire il va perdre la vie. Et avant même de perdre la vie, il dira « Si il m'arrive quoi que ce soit pendant cette bataille, toutes mes richesses sont pour Mohammed. » On avait cité tous ces exemples, comme ça on a des exemples des compagnons les plus connus, on a des exemples de compagnons dont on ne connaît même pas le nom, et on a même des exemples de personnes qui n'étaient même pas musulmans. Non. Parce que ces gens-là, même ceux qui n'étaient pas musulmans, comme ce juif, Mukhayriq, ont compris pourquoi le professeur Hassan était attaqué. Il n'était pas attaqué juste parce qu'il était musulman. Il était attaqué parce qu'il défendait la liberté de croyance de chaque personne. Et d'ailleurs, le premier verset qui a été révélé pour autoriser les musulmans à se défendre contre les attaques des idolâtres, ce verset, il explique que c'est pour défendre les mosquées, les couvents, les monastères, les églises. Tout endroit où on se consacre à Dieu, même dans les autres religions. C'est-à-dire, c'est une façon de dire que si vous prenez les armes, ne le faites que pour vous défendre et pour défendre ceux qui veulent vivre leur religion sereinement et paisiblement. Non. Ala kulli hal, on revient à cette bataille de Uhud. Il faut nous remettre dans le contexte pour comprendre ce dont on va parler aujourd'hui. On avait expliqué qu'au moment où la tendance va se renverser, comment ça s'est fait ? Ça s'est fait par plusieurs choses. Premièrement, le fait que l'armée musulmane commença à gagner à un tel point que des compagnons, l'armée des musulmanes s'est dispersée, le professeur Hassan était derrière avec quelques compagnons. Il y avait une partie de l'armée qui pourchassait les idolâtres, qui essayaient de fuir, parce qu'ils étaient en train de perdre. Et une autre partie de compagnons qui sont partis, eux, dans le campement des idolâtres pour prendre le butin. Et les archers, ils étaient sur le mont des archers, ils devaient défendre contre la cavalerie qui était cachée derrière le mont des archers. Sauf qu'à ce moment-là, la plupart des archers se sont dit « C'est tout, la bataille est finie, on peut descendre ». On l'avait expliqué en détail. Ils sont descendus. Et donc la cavalerie a su traverser par derrière le mont des archers et ils avaient un code avec l'armée idolâtre. S'ils arrivaient à contourner le mont des archers, ils devaient venir en galopant avec leurs chevaux et faire un cri pour que les idolâtres qui étaient devant entendent le cri et sachent que la cavalerie a su passer par derrière, donc qu'ils reviennent par devant pour prendre en étau l'armée des musulmans. Et donc ils vont faire ce cri. Les musulmans, ils entendent le cri, et voient les idolâtres devant eux qui étaient en train de fuir, finalement qui reviennent et qui les combattent. Et ils se retournent pour voir ce qui se passe. Et ils voient que la cavalerie arrive. Et ils ne voient plus personne sur le mont des archers. Ils cherchent leur étendard. Sauf qu'à ce moment-là, c'est qui portait l'étendard ? C'était Mus'ab ibn Umar, radiallahu anhu. Il a été tué, et l'étendard est à terre. Et l'étendard des idolâtres qui avait été mis par terre parce que à chaque fois qu'un idolâtre voulait le prendre, il était tué dans les défis en duel, et donc plus personne n'osait le ramasser. Finalement, il voit à ce moment-là l'étendard des idolâtres qui est repris par une femme idolâtre. Il cherche des yeux le professeur Hassan, il ne le trouve pas. Parce qu'à ce moment-là, le professeur Hassan, comme on l'a vu, il va tomber dans un des pièges d'Abu Amr al-Fasir, dans le trou qui a été creusé. Al-Muhim, ça crée une confusion. Il faut vous mettre à la place de ces compagnons-là. Ils doivent gérer de la cavalerie qui arrive par derrière, les idolâtres qui reviennent par devant, et en même temps, mais qu'est-ce qui est arrivé au professeur Hassan ? Pourquoi notre étendard, on ne le voit plus ? Pourquoi finalement celui des idolâtres, on le voit ? Les archers, qu'est-ce qui se passe ? Et par-dessus tout, il y a une rumeur qui va se propager sur le champ de bataille qui prétend que le professeur Hassan a été tué par un idolâtre. Il y a même un idolâtre qui le jurera, parce qu'en tuant Mus'ab ibn Umair, Moussab ibn Umar ressemblait au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et donc avec les casques et tout ça, et les armures, on ne reconnaissait pas bien les personnes. Il jurera, il dira, j'ai tué de mes propres mains Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, cette rumeur, beaucoup vont y croire, musulmans et idolâtres. Et donc, parmi les musulmans, il y en a qui vont se réfugier sur la montagne de Uhud. Il y en a qui vont lever les bras et poser les armes en signe de « nous nous rendons ». Il y en a certains qui vont fuir le champ de bataille pour aller vers Médine. Et il y en a qui vont lutter jusqu'au bout. On avait donné des exemples de ces compagnons-là qui vont mourir à cet endroit-là parce qu'ils vont lutter jusqu'au bout. Et qui vont croire à la rumeur de la mort du professeur Hassan, mais ils vont dire « eh bien, si le professeur Hassan a été tué pour cette cause, qu'est-ce qu'on fait nous encore ici vivants ?» Non. Donc il y a eu des réactions différentes. Et aujourd'hui, ce qui nous intéresse, ce sont les compagnons qui vont fuir jusqu'à Médine. Donc il faut imaginer qu'à Médine, nous on avait déjà parlé que la plupart de ceux qui sont restés à Médine sont soit les femmes, les enfants, ou des vieillards. Par exemple, on avait donné l'exemple de Yaman, le père du compagnon Hudhayfa ibn Yaman, qui faisait partie des vieux qui étaient restés, et de loin ils vont voir ce qui se passe dans le champ de bataille, ils vont voir la confusion. Eux, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils sont vieux. Ils ont de bonnes raisons de ne pas participer, mais quand ils vont voir que la tendance s'est renversée, ils vont venir participer à la bataille. À tel point qu'il va y avoir tellement de la confusion sur le champ de bataille que Yaman, lui, va être tué par les musulmans, parce qu'ils ne vont pas le reconnaître, et c'est une confusion totale. On avait déjà parlé de ça. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est qu'il y a les textes qui nous disent qu'il y a un groupe de compagnons qui vont fuir et qui vont partir à Médine. Ça veut dire qu'ils vont emmener avec eux cette information qui n'est en réalité qu'une rumeur de la mort du professeur Hassan. Et l'autre information qui, elle, est une vérité et une réalité, c'est que les musulmans sont en train de perdre la bataille, et que c'est la débandade. Et qu'on ne sait pas, on sait pas ce qu'est devenu le porte-étendard, etc., etc. Et dans la ville de Médine, il y a les femmes, les enfants, de qui? Des gens qui sont sur le champ de bataille. Donc ils viennent avec cette information à Médine, informer les femmes, les épouses, des compagnons qui sont en train de risquer leur vie ou qui sont peut-être déjà morts pour certains. Ils viennent informer les enfants de ces gens-là ou leurs parents. Et donc, on a des textes qui viennent nous dire que des compagnons sont arrivés jusqu'à Médine avec ces informations. Même si les habitants de Médine commençaient déjà à comprendre qu'il se passait quelque chose, parce qu'ils voyaient Uhud, ils étaient à la périphérie, ils s'étaient mis à la périphérie, les habitants, ils regardaient de loin, et donc on voit de loin ce qui se passe à peu près à Uhud. On ne comprend pas en détail, mais on voit à peu près qu'il se passe quelque chose d'anormal. Alors que les musulmans couraient contre les idolâtres, finalement, la cavalerie a pu passer le mont des archers, etc. Et il y a un texte qui est repris dans la plupart des biographies qui s'intéressent à la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sauf que ce texte, il n'a pas été authentifié. Et ce texte nous parle de qui? De Ummu Ayman. Ummu Ayman, c'est une esclave, enfin une ancienne esclave, qui appartenait au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. En vérité, elle appartenait à son père. Et donc, le professeur Hassan a hérité de cet esclave, Ummu Ayman. Et le professeur Hassan l'a affranchie, l'a libérée. Et par la suite, elle va se marier avec le fils adoptif du professeur Hassan, Zayd ibn Haritha. Enfin, elle va d'abord avoir un premier mariage avec un autre homme. Ensuite, cet homme va mourir. Et ensuite, elle va se marier avec le fils adoptif du professeur Hassan, Zayd ibn Haritha. Ummu Ayman, c'est son surnom, Ummu Ayman. Son vrai nom, c'est Baraka. Elle va faire partie des toutes premières nourrices du professeur Sallam, et elle va même être celle qui va le prendre en charge avec son grand-père lorsque sa mère, elle va mourir. Et elle va même être présente au moment où sa mère, elle va mourir, puisqu'elle fera partie du voyage. Si vous vous rappelez, bon, ça fait des années qu'on avait vu cet épisode-là, mais lorsque
sa mère va, Amina bint Wahb, elle va prendre son fils, le professeur sallam, pour Médine, pour qu'il fasse connaissance avec sa famille de Médine, puisque le professeur sallam, du côté maternel, il a de la famille à Médine. Et donc, elle va tomber malade en route, sur le retour, et elle va mourir en chemin, la mère du professeur sallam. Et avec eux, il y a qui? Il y a justement l'esclave, Umm Ayman, qui va prendre soin du professeur sallam, et de son deuil, de sa tristesse. Elle est là au moment où il faut. Et quand elle revient, son grand-père, Abdul Muttalib, va dire à Umm Ayman, je compte sur toi pour prendre soin de lui comme si c'était ton fils. Et c'est une des raisons pour lesquelles le professeur sallam, dès qu'il est en âge de prendre des décisions, il libère cette femme. C'est son esclave, il l'a hérité, mais il la libère. Avant même d'être prophète, avant même d'être prophète de la religion qui dit qu'il faut libérer les esclaves. Le professeur sallam la libère. Et elle se mariera par la suite avec Zayd ibn Haritha, qui était le fils adoptif du professeur sallam. Ala kulli hal, Umm Ayman, pourquoi on parle d'elle, pourquoi on la cite par rapport justement à ce qui va se passer à Médine lorsque les compagnons vont revenir avec cette information que le professeur sallam aurait été tué. Umm Ayman, parmi les dernières choses qu'on peut dire sur elle avant de venir sur ce dont on veut parler à propos d'elle dans cet événement de la bataille de Uhud, Umm Ayman radiallahu anha, le professeur sallam disait à propos d'elle, selon certains textes, elle fait partie des derniers de ma famille, des derniers encore vivants de ma famille. Elle n'a pas de lien familial, elle n'a pas de lien de sang avec le professeur sallam, mais il l'a considérée comme sa famille proche, à un tel point que même d'autres textes disent qu'il l'appelait même de temps en temps ya Umma, ô mère, il est considéré comme une mère. Non. D'ailleurs, on raconte que après la mort du professeur sallam, Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu, qui était devenu calife, avait l'habitude d'aller lui rendre visite. Et il disait à Omar, viens, allons rendre visite à Umm Ayman comme le professeur sallam avait l'habitude d'aller rendre visite à Umm Ayman. Ils essayaient de reproduire ça. Ils essayaient de reproduire ce que le professeur sallam faisait, alors que le professeur sallam le faisait d'abord parce qu'il avait un lien affectif avec elle. C'était son ancien esclave qu'il avait affranchi, elle a été sa nourrice, elle s'est occupée de lui, etc., etc. Elle était mariée avec son fils adoptif, donc il y avait quelque chose. Mais eux, tellement pour eux, si le professeur l'a fait, c'est qu'il doit y avoir une raison, il doit y avoir une importance. Abou Bakr Siddiq disait à Omar, viens, allons lui rendre visite. Et on raconte qu'une des fois où ils sont partis lui rendre visite, ils ont commencé à parler, à se remémorer à Afwan quand le professeur sallam était vivant, les souvenirs. Et elle s'est mise à pleurer. Et Abou Bakr et Omar radiallahu anhum lui ont dit, pourquoi tu pleures? Ne sais-tu pas que ce que Allah a pour le professeur sallam est mieux que ce qu'on aurait pu, ou que ce qu'on pourrait lui offrir s'il était resté parmi nous? Il est mieux auprès d'Allah qu'auprès de nous. Naam. Et elle veut dire, je sais que ce qu'Allah azzawajal a pour le professeur sallam est mieux que ce qu'on peut lui donner. C'est pas pour ça que je pleure. Je dis, pourquoi tu pleures? Ils se sont dit, comme on a parlé du professeur sallam, ça lui a fait rappeler la mort du professeur sallam, et donc ça l'a rendu triste, elle a pleuré. Elle a dit, je pleure parce que sa mort vient de me rappeler brutalement que depuis qu'il est mort, les versets du Coran ne nous sont plus révélés. Puisque l'intermédiaire de la révélation, c'est qui? C'est le professeur sallam. C'est-à-dire, elle se rend compte d'un grand privilège qu'ils ont perdu avec la mort du professeur sallam, c'est que à certains événements, pour certaines choses, le professeur sallam venait et disait, Jibril vient de venir me voir et il m'a révélé que, ou Allah vient de me révéler que. Et ça agit, c'est un des plus grands privilèges que l'être humain peut connaître dans sa vie. Et Umm Ayman, elle dit, voilà pourquoi je pleure moi, parce qu'en me rappelant du professeur sallam, je me rappelle qu'il venait et me disait, tel verset m'a été révélé, et ça on ne peut plus l'avoir, c'est fini. Parce que c'était lui le prophète, c'est lui qui recevait la révélation. Non. Ala kulli hal, il y a des textes, donc j'ai dit dans la biographie du professeur sallam, qui nous parlent de la réaction d'Umm Ayman lorsqu'elle va voir arriver les premiers compagnons qui fuient le champ de bataille avec la rumeur que le professeur sallam aurait été tué. Elle, quand elle les voit arriver, ces textes nous disent que elle prend la poussière, hein, la terre, et elle la lance sur eux pour montrer dans cette attitude qu'elle s'oppose à ce qu'ils sont en train de faire. C'est-à-dire qu'ils sont en train de revenir, de fuir. On a expliqué à la... Comment dis-je, nous, il y a eu la confusion, on entend que le professeur Samy est mort, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Mais elle, elle ne conçoit pas ça. On lui dit que le professeur Salem, qu'elle chérit tant, serait mort. Donc pour elle, c'est justement pas une excuse pour revenir et pour fuir. Et donc elle prend la terre et elle jette. Et elle va même jusqu'à dire à certains d'entre eux qu'elle croise, elle leur dit Hakal mirzal, farzil bihi, wa halumma saifak. Tiens, prends le rouet. Le rouet, c'est l'instrument avec lequel on fait filer la laine pour en faire un fil et qu'après on peut l'utiliser comme un fil pour coudre. Et donc cet instrument qui était utilisé pour coudre, qui était habituellement utilisé par les femmes à l'époque, c'était un travail principalement fait par les femmes, elle dit tiens, prends le mirzal et va coudre. Wa halumma saifak, donne-moi ton sabre, donne-moi ton épée, moi je vais te montrer ce qu'on doit faire avec l'épée. Tu ne sais pas utiliser l'épée, viens utiliser le rouet, ou on appelle ça aussi le fuseau, hein, prends le mirzal et va l'utiliser pour coudre, et moi je vais utiliser l'épée, je vais te montrer comment on fait. Non. Et ces textes nous disent également que Umm Ayman va se dépêcher et se précipiter sur le champ de bataille. Non. Et qu'elle va arriver, qu'elle va trouver des compagnons gravement blessés à terre, certains agonisants. Et donc, elle va s'avérer tout de suite à prendre de l'eau et abreuver ses blessés. Et un homme, Hibban ibn al-Qariha, qui est un idolâtre, va venir, et cet homme d'ailleurs, on va reparler de lui à la bataille de Khandaq, la bataille des coalisés, puisque c'est lui qui va lancer la flèche qui va finir par tuer le compagnon Sa'd ibn Mu'adh, comme on le verra à la bataille des coalisés. Et ça, ce sera plus tard, Inch'Allah. Mais cet homme, il va tirer une flèche quand il va voir donc cette femme. Elle n'est pas en train de se battre. Elle est en train d'abreuver des blessés musulmans qui ne sont plus d'aucune menace contre les idolâtres puisqu'ils sont à terre. Certains sont en train de mourir, d'autres sont gravement blessés. Ils ont juste besoin d'eau et elle leur donne de l'eau. Et le prince Hassan voit Umm Ayman qui distribue de l'eau, qui abreuve ces hommes, et il voit cet homme Hibban ibn al-Qariha qui tire une flèche en direction d'Umm Ayman. Cette flèche va toucher Umm Ayman, mais elle s'est protégée avec une armure, etc. Donc cette flèche, elle va pas la blesser physiquement, mais à cause du coup qu'elle reçoit avec la flèche qui transperce pas ses protections, cette flèche va la faire tomber. Elle va trébucher, elle va tomber. Et quand elle va tomber, vous savez, à l'époque, les gens vivaient de très peu. Ils étaient modestes. Et donc, généralement, les gens, ils n'avaient qu'un habit. Elle va trébucher et son habit va s'arracher. Et donc, on va voir une partie de son corps. Et lui, Hibban ibn al-Ariqa, il va se mettre à rire et à se moquer d'elle, en la voyant dans cette situation, puisque elle tombe, d'abord elle tombe, et en plus, une partie de son corps est dénudée, donc il va se moquer d'elle parce qu'elle essaye de se cacher comme elle peut avec l'habit qui s'est arraché. Et il se moque d'elle. Et selon ces textes, comme on a dit, qui n'ont pas été authentifiés, le prophète sallam va dire à Sa'ad, dont on a déjà parlé, à qui il a dit Fidaka abi wa ummi, toi pour qui je suis prêt à sacrifier père et mère, il va lui donner une flèche À ce moment-là, le professeur n'avait plus de flèche avec des lames. Donc c'était juste un bâton. C'est une flèche, mais la lame, elle n'était plus là. Parce que, comme je vous avais expliqué avec Saad ibn Abi Waqqas dernièrement, c'est qu'ils récupéraient, ils essayaient de récupérer des flèches et quelquefois elles étaient récupérées, elles étaient déjà utilisées. Donc quand on la récupère, elle se casse. Là. Quand on essaye de la sortir alors qu'elle a déjà touché quelqu'un ou quelque chose, elle se casse. Si on la prend pas comme il faut, elle peut se casser. Donc on la récupère, on récupère que la flèche, le bois en fait, on récupère pas la lame. Le professeur Hassim n'avait que ça à donner à Saad, et comme il tirait bien, il lui a dit, tiens, vise-le. Et c'est une flèche finalement qui n'est pas si dangereuse. Et il va le viser, et il va le toucher. Et à son tour, subhanallah, il va tomber, et lui aussi, son habit, il va s'arracher. Et Allah Azza wa Jalla lui fait subir exactement ce qu'il a fait subir à Umm Ayman. Et le professeur sallam lui fait ce qu'il a fait, yani. Selon ce texte, encore une fois, comme on a dit, on précise, c'est important, on n'a pas d'authenticité sur ce texte. Parce que ce texte, en fait, il est rapporté dans beaucoup de biographies du professeur sallam, mais personne ne cite la source. Vous pouvez le trouver dans le Nectar Cacheté de Mubarak Fouri, vous pouvez le trouver dans le Mawsu'a de Sirah Nabawiyah de Abd Shafi Muhammad Abd Latif. Vous pouvez le trouver dans Subul al-Rashad fi sirati khayri al-ibad. À la kulli hal, on le trouve dans beaucoup de livres du professeur, qui parlent de la vie du professeur sallallahu alayhi wa sallam, mais à chaque fois, en tout cas en ce qui me concerne, je n'ai jamais retrouvé une source claire qui nous permettrait d'aller vérifier si ce texte a été authentifié ou non. À la kulli hal, donc ce texte, pourquoi on le cite? Pour montrer que des femmes comme Umm Ayman ont reçu cette information et donc elles se sont dépêchées de se rendre à Medina. Elles se sont dépêchées de se rendre à Medina, sur le champ de bataille de Uhud, pour voir ce qui s'y passe. On a d'autres textes qui viennent appuyer cette idée. Je vous avais déjà dit que lorsque le professeur Sima a été gravement blessé, on sait que Fatima radiallahu anha va soigner sa blessure, elle va verser de l'eau sur sa blessure, etc. Et on avait dit à ce moment-là, on ne sait pas à quel moment Fatima radiallahu anha est arrivée exactement. Et vous avez le savant Ibn Hajar al-Asqalani, lorsqu'il fait le commentaire de Sahih al-Bukhari, qui dit, il cite une version qui a été rapportée par l'imam Abdul Razzaq, il dit, il y a une version qui a été rapportée par l'imam Abdul Razzaq, mais c'est une version qui n'est pas authentifiée, qui vient expliquer quelle est la cause que Fatima, radiallahu anha, est arrivée sur le champ de bataille. Et il dit, c'est au moment où les musulmans ont commencé à perdre et qu'ils ont fui. Il y a des femmes qui sont venues de Médine vers Uhud et Fatima, radiallahu anha, en faisait partie. Donc ce texte, même si lui aussi il n'a pas été authentifié, il vient appuyer l'idée que des femmes à Médine ont été alertées par le groupe de compagnons qui ont pris la fuite jusqu'à Médine, et donc elles sont venues sur le champ de bataille. Et qu'au moment où elle est venue, Fatima radiallahu anha, et qu'elle a vu le professeur sallam dans l'état dans lequel il était, cette version elle dit qu'elle a pris le professeur sallam dans ses bras, et qu'ensuite elle a versé de l'eau sur ses blessures pour les soigner, et ça on en avait parlé en détail. Non. Mais de manière générale, on sait aussi qu'il y a des femmes qui assistaient, qui participaient aux batailles depuis le début. Donc là, je parle de deux types de femmes. Il y a des femmes qui sont venues après parce qu'elles ont reçu l'information que c'était un échec, que c'était une défaite et que le professeur Hassan est mort. Donc elles ont peur pour leurs proches. Elles viennent pour voir ce qui se passe, pour aider, pour voir ce qu'elles peuvent faire, comme Mouaïman. Mais on a des textes qui nous disent aussi que dans la plupart des expéditions, il y avait des femmes qui accompagnaient pour aussi aider, pas au combat, mais on nous dit qu'elles elles abreuvaient les combattants ou les blessés et qu'elles soignaient les gens. Comme par exemple, pour la bataille de Uhud, on nous dit que Aïcha radiallahu anha, c'est le compagnon Anas ibn Malik qui le dit, et là c'est une version qui est authentique dans l'authentique de Al-Bukhari, qui dit, j'ai vu lorsque c'était la bataille de Uhud et que les idolâtres sont repartis. Donc là il parle de la fin de la bataille, on va revenir dessus plus tard. Il dit, j'ai vu Aïcha, la fille d'Abou Bakr, donc l'épouse du professeur, la fille du compagnon Abou Bakr, radiallahu anha, j'ai vu Aïcha et Umm Sulaym qui abreuvaient les blessés et qui les soignaient. Non. Il y en a des textes, par exemple dans l'authentique de Muslim, qui nous disent que le professeur sallam avait l'habitude de prendre dans ses expéditions Umm Sulaym, la femme Umm Sulaym, qui est la femme d'Abu Talha al-Ansari, celui qui a dit Nahri duna nahrika ya Rasulallah, ma poitrine avant ta poitrine au messager d'Allah, et qui recevait les flèches à la place du professeur sallam, c'est son épouse Umm Sulaym. Et le professeur sallam avait l'habitude de la prendre parmi les femmes, qui, le groupe de femmes qui les accompagnaient dans les expéditions, les batailles, parce qu'elles avaient l'habitude d'abreuver ce texte dans l'authentique de Muslim, elles avaient l'habitude d'abreuver les blessés et de soigner les blessés, les combattants. Non. Et pour autant, ça nous pousse à poser une question. Est-ce que il y avait des femmes parmi les femmes compagnons qui faisaient plus que ça, qui combattaient? En tout cas, il y a une femme dont on doit parler. Qui est cette femme? Qu'est-ce qu'elle a fait à la bataille de Uhud? Ça, c'est ce qu'on verra la fois prochaine. Bénilaï tabaraka wa ta'ala. Barakallahu fikum pour votre attention. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.